ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Alors, je suis ravi de vous retrouver en direct depuis les studios de CFM Montauban. Je fais deux, trois petits réglages parce que dans l'après-midi, on a eu des jeunes qui sont venus enregistrer une émission de cinéma. Ils sont très sympas, ces petits jeunes. Ils sont lycéens au lycée Michelet. Vous savez, comme lycée Michelet, il y a une option cinéma. Vous pouvez passer votre bac avec une option ciné. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, ils viennent une fois par semaine faire une émission qui s'appelle Retour vers le cinéma. Hein, évidemment, petit clin d'œil à Retour vers le futur. Mais du coup, les jeunes, vous savez comment c'est, quoi. Ils mettent les casques sur les oreilles, mais tout à fond. Voilà. Hein. Et puis, je viens d'en prendre plein les feuilles. C'est pour ça que j'ai eu une petite difficulté à lancer cette émission. Et donc, je me tourne vers notre premier invité, Christophe Magui, qui est prêt. Vous êtes prêt à...
Je suis prêt, bonsoir à tous.
On va la refaire comme si on n'était pas en direct et puis qu'on pouvait faire du montage. Hein. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour.
Voilà.
Ça, c'est magique. Là, on peut vraiment dire qu'est-ce qu'on déguste. C'est parti. Avec aujourd'hui, donc, dans les studios, Christophe Magui, directeur commercial de Sieur d'Arc. C'est la cave coopérative des vins de Limoux. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Et merci d'être venu les mains pleines, puisqu'on va pouvoir déguster, si j'ai bien compris, des bulles, mais pas que.
J'ai emmené, oui, effectivement, deux bulles, des créments de Limoux que nous produisons, ainsi qu'un vin tranquille, ce qu'on appelle tranquille puisqu'il n'est pas effervescent, un Limoux AOC 100% chardonnay.
Un voilà. Vin tranquille, ça me voilà. Plaît bien ça quand
et
même.
Oui, c'est comme ça, alors on a tendance à parler de bulles, de champagne, de vin effervescent, et le vin on appelle ça toujours du vin, mais nous pour faire la dissection, puisqu'on produit les deux, d'accord, on dit soit vin effervescent, soit vin tranquille. Voilà.
Bon. Moi je trouvais intéressant de vous inviter aujourd'hui, Christophe, parce qu'il était déjà prévu d'inviter Nadine Oustry du GAEC de Cantepoule. Bonjour.
Bonjour.
On s'est rencontrés chez notre ami Philippe Romain au domaine de Monteils pour la fête des vendanges.
Tout
et
à fait. Donc
vous êtes productrice avec votre mari de lait. Vous avez des vaches laitières.
Ouais.
Et pour, on va dire, rentabiliser l'histoire, parce qu'on sait très bien ce que c'est que la production de lait aujourd'hui, ça nourrit pas son homme ni sa femme. Donc c'est vous ça. Avez décidé de transformer. Et donc vous faites des glaces, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Des glaces en été, en pot et en bûche glacée, omelette norvégienne toute l'année.
Bon, bah vous nous raconterez tout ça. Merci d'être là. Mais ça va
merci
très très bien se marier
pour votre invitation.
Avec les bulles de Limoux. Non, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je pense que c'est très bien.
Parce qu'on s'est dit comme ça que ça allait nous donner des idées pour les tables de fête de fin d'année. Hein,
qui approche.
On commence à y penser, à se dire mais tiens, alors, est-ce qu'il y aura des huîtres ? Est-ce qu'il y aura du chapon ? Est-ce qu'il y aura du foie gras ? Hein ?
Et pour une fois, des bûches et des glaces.
Voilà. Pour une fois, c'est du sucré.
Donc, côté qu'est-ce qu'on déguste, il y a Anne Lasserre. Bonjour Anne.
Bonjour Rémi.
Au programme aujourd'hui.
Alors, je vais parler, moi, de la Lune.
D'accord.
Voilà.
Et de ses influences sur...
Les plantes. Sur les plantes, sur les bêtes, sur les gens. Et j'évoquerai en passant Musset dans Balade à la Lune.
Et puis, bon, là, il me tarde, hein, voilà. Et puis Sophie ?
Ben moi, je... Alors déjà, bonjour à
bonjour,
tous.
Bonjour,
voilà,
Sophie.
Le retour, Sophie.
Bienvenue, bien revenue.
Oui, c'est ça. Venue. Après une grave pneumonie, pardon, ben voilà, je suis à nouveau en forme. Et ben moi, je vais vous parler tout à l'heure de l'actualité un peu agricole, hein, toujours la partie agricole qui me passionne, et du Salon Régal qui aura lieu la semaine prochaine.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le grand nettoyage dans les fermes. Hein, on retrouve tout ça au rond-point. Ben
oui, c'est ça, effectivement.
Aurélien est à la technique de cette émission. C'est lui qui a la charge de lancer ce premier morceau de musique d'Astaformode que vous retrouvez vendredi soir, ce soir, donc, puisqu'on est en direct, au Doc à Cahors.
Non, mais ça, d'accord. Et je peux parler un peu aussi ? Merci. Ordre du jour, le prochain AstaFest. Alors, Sandrine, pour ce qui est de la cantine. Quoi ? Oui, du 4X, c'est pareil, tu m'as compris. Ton idée de faire des verrines, c'est super sympa. Ici, on n'est pas à Bordeaux, à Darwin. C'est bien joli tout ça, mais je veux dire, on va manger quoi ? Mais si tu veux, tu feras ça chez toi, à l'occasion d'un apéro où je viendrai pas, et ça ira très bien comme ça. C'est bon, on va faire comme chaque année, c'est-à-dire de la ventrèche. Mais il n'y en a pas de végétariens ici, putain. Quoi ? Il y en a une fois dans les groupes qui vienne jouer. Oui, comme l'an dernier avec le groupe de garage de Bordeaux. Le gosse nous a cassé les couilles pour qu'on lui fasse de la bouffe bio, qu'on lui trouve sur putain de coca zéro. Et résultat, bim, il a même pas passé l'apéro qui se vomissait du brûlois sur le perfecto. Ça aussi, Bernard, faut que t'arrêtes de refiler tes conneries de buvard aux musiciens. Après, les mecs, ils montent sur scène, ils captent plus rien. À la base, ton truc, c'est d'aller chercher les groupes à la gare d'Agen, ni plus ni moins. Et tout ça parce que t'as un camion et que ça nous arrange bien. Ouais, ben fais pas le malin. Toi, ça te fait bien marrer qu'après les gosses, ils sont complètement débranlés, ils jouent comme les pieds. Et après, qui c'est qui les gère à la buvette? C'est Bibi Parly. Arrivé le lendemain midi, obligé de leur confisquer le tibi pour qu'ils aillent au lit. Et le batteur qui fout en larmes, putain, j'ai une dette entre l'assistante sociale du coin. Merde. Organiser un festival, c'est vraiment se faire chier avec tout un tas de merdiers. Organiser un festival, alors qu'au final, on était bien mieux au bal. Alors Martin, si je comprends bien, ton projet pour cette année, c'est de faire un bar en palette, des tables basses en palette, des canapés en palette et une scène en palette. Carrément, si tu veux le festoche cette année, on va directement le faire sur le parking du Bricomarché. Comme ça, si la visserie vient à manquer, on sera pas emmerdé. Non mais sans déconner, déjà les trucs en palette, c'est moche. Oui mais je m'en fous que chez toi, il y a tout l'outillage. Ici, on organise des concerts par la quinzaine du bricolage. Ni un rassemblement de castors en salopette, on va pas se prendre la tête. De quoi? Ah, parce que tu comptais refiler la sciure à Bertrand. Pourquoi? Pour les toilettes sèches. Ah mais parlons-en, voilà une idée de chef. Sans déconner, on a les toilettes du stade à disposition depuis des années. Il suffit de demander les clés et passer un coup de serpillière quand on aura terminé. Mais non, monsieur préfère qu'on aille se planter des échardes dans le cul. Tiens, d'ailleurs, il faudra une trousse à pharmacie au bar avant que j'y passe plus. Oui, je sais, Bertrand, chier dans la sciure, c'est écolo. Et à vrai dire, moi, je trouve ça plutôt rigolo. Ça fait comme des nuggets. Non, mais sérieusement, on va faire quoi après de toute cette merde à la sciure de palette? Et oui, de l'engrais, pardi. Tu sais que c'est rempli de colle de merde, ces saloperies. Ouais, mais tu mets ça dans ton jardin si ça te dit. Mais tu comptes pas sur moi pour venir manger tes radis. De la merde. Organiser un festival, c'est vraiment se faire chier avec tout un tas de merdiers. Organiser un festival, alors qu'au final, on était bien mieux au bal. Bon, et putain, Denis, c'est quoi ces mails à la con, là, que tu nous envoies depuis lundi? J'ai lu ça un peu vite, mais j'ai cru comprendre que tu voulais l'invite. Ok, c'est pour qui l'invite? C'est pour toi? Putain, mais t'es vraiment con, quoi. Tu fais partie de l'asso, espèce de cono. Donc tu rentres gratuit. Ouais, voilà. Quoi? Tu veux un emplacement pour ta tante sur le camping des bénévoles? Mais la clôture de ta putain de baraque, c'est la même que celle du site, abruti. Ouais, voilà, c'est ça, c'est à côté. Mais t'as qu'à faire du camping dans ton jardin, on s'en cogne. Quoi? Tu veux un pass? Bon, j'arrête, parce que là, tu m'agaces. On avance un peu sur la programmation. On va se bouger un peu le cul là, non? Alors franchement, Hervé, tout ce qui est reggae, c'est pas une super idée. Ben, tant qu'on a Julie qui gère la régie, c'est pas qu'elle soit susceptible, mais c'est pas vraiment compatible. Souviens-toi, l'an dernier, le chanteur du groupe de reggae de Montpellier, il lui a tellement pété les rouleaux avec ses histoires de sono, qui avait pas le son qu'il lui faut, que l'escalier de la scène était un peu trop raide, que l'eau pour sa tisane était un peu trop tiède. Résultat, il est reparti avec un rouleau entier de gaffeurs dans les dreads. Bon, on choisit qui cette année pour la tête d'affiche? De toute façon, moi,
allez, on va laisser Astaphor Mode en pleine réunion de préparation de leur festival. J'espère que ils auront fini quand vous irez les voir ce soir au Doc à Cahors. Il n'y a pas que hein, sur scène, je ne sais plus, mais c'est un co-plateau. Et ça va être une très très belle soirée. Je ne l'ai plus en tête. C'est Aurélien, si tu l'as, peut-être.
Les Krav Boka.
Ouais, voilà. Allez, c'est au Doc à Cahors ce soir. Et nous, on est vendredi, il est 17h43. On est en direct et c'est Qu'est-ce qu'on déguste ? Et avant de déguster tout à l'heure un premier morceau de glace du Gaec de Cantepoule, on va déjà commencer à déguster. Santé à la vôtre. Santé.
Déjà commencer à boire l'autre.
Hein? Ouais, voilà.
C'est loin. Hop.
C'est oui, c'est dur hein, de traverser.
C'est loin.
Donc on est avec des bulles, oui. De Limoux. Est-ce qu'on est sur une blanquette ou est-ce qu'on est sur un crément?
On est sur un crément.
Ouais.
Donc effectivement, l'origine de la cave de Sieur d'Arc s'est faite sur la blanquette, puisque c'est le cépage planté dans la région, le Mozac, servait à faire la blanquette. C'est un cépage qui est fait à 90% à base de Mozac. D'ailleurs, je vais revenir sur une petite anecdote, puisque la légende veut que la première bulle du monde, avant le champagne, a été faite à Limoux, en 1531.
Ouais.
Ce sont des mois de bénédictins de l'abbaye de Saint-Hilaire, qui est un peu comme la tartatin, ont laissé repartir des bouteilles de vin en fermentation et ont créé les premiers vins effervescents du monde. Donc la légende veut que le moine Dom Pérignon, qui revenait de Saint-Jacques-de-Compostelle, s'est arrêté à Limoux et a vu la recette et l'a ramené en Champagne.
Il a chippé la recette.
Et en a fait aujourd'hui un bien meilleur usage, puisque Champagne aujourd'hui est un terme unanimement reconnu dans le monde et qui parle à tout le monde. Voilà. Donc c'était pour la petite anecdote, mais la première bulle du monde, selon la légende, a été faite à Limoux. Voilà. Donc au départ, des bulles, effectivement, nous étions plus sur de la blanquette. La méthode de vinification est exactement la même que pour le champagne, pour la blanquette. Et donc nous avons développé des gammes de créments à partir des années 2010 pour avoir un goût qui ressemble beaucoup plus au goût champenois. La blanquette, avec le cépage mosaïque, est un peu plus sucrée. Après, ça dépend du dosage qu'on y met. Le dosage, c'est le sucre qu'on met avant de refermer la bouteille pour donner plus ou moins le goût sucré. Et donc, le crément est à base de chardonnay. Donc, on a 70% de chardonnay dans cette gamme-là, qui est Aguila, qui est la gamme vendue en grande distribution. 70% de chardonnay, et après, on a 15% de chenin, qui est notre cépage, et 15% de mosaïque, qui est notre cépage local. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est fait exactement comme du champagne, avec les mêmes méthodes. On garde les bouteilles 18 mois sur latte. On voit souvent des anecdotes. Alors, c'est plus une personne qui vient tourner les bouteilles à la main comme ça se faisait auparavant sur des trépieds. Aujourd'hui, on a des machines qui...
On a des robots qui font aussi,
voilà,
ça.
Voilà, des robots qui les font tourner, on dégorge et puis l'effervescence se fait de manière naturelle. Et en fin de cycle, on met plus ou moins de sucre, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour avoir soit du brut, comme là, et si on met beaucoup de sucre, jusqu'à 18 grammes, 20 grammes, ça devient du demi-sec. Voilà. C'est la différence entre le brut et le demi-sec, c'est le sucre qu'on rajoute enfin, juste avant la mise en bouteille.
Pour résumer, Christophe Magui, si j'ai bien compris, la blanquette, c'est uniquement à base de mosaïque.
90% de mosaïque.
Voilà. Et quoi d'autre avec le mosaïque?
On peut mettre du chenin.
Qu'on veut.
On met un petit peu ce qu'on veut. Dans le décret, c'est 90% minimum de mosaïque. Voilà.
Et le crément, c'est les trois autres...
Le crément, c'est... Alors, ça dépend des régions. Toutes les régions de France qui ont aujourd'hui un crément. Et chaque région a son encépagement différent en fonction de sa spécificité. Par exemple, les créments à Bordeaux n'ont pas de chardonnay. Mm-hmm. Nous, on a la chance d'avoir du chardonnay. Donc aujourd'hui, je crois que le décret d'appellation, c'est minimum 50% de chardonnay et maximum 70% pour pouvoir utiliser d'autres cépages. Voilà. Et nous, donc, en fonction de nos cuvées, nous mettons... en fait, le travail de nos œnologues, en fonction des vendanges, des récoltes, des quantités qu'on a, qui font des assemblages, qui goûtent des bouteilles, ce qu'on appelle sur vin clair, c'est-à-dire qu'avant qu'ils soient préparés à être mis sur là, c'est-à-dire on goûte différents vins, on fait des assemblages, et puis après on les laisse dormir 18 mois, et on les réveille en leur donnant leur effervescence.
La différence entre un crément, une blanquette et une clairette? Une clairette de lit, par exemple?
Alors, une clairette de lit, ça ressemble beaucoup à la blanquette, puisque c'est fait avec le cépage clairette qui est un petit peu similaire à la blanquette, donc c'est un petit goût sucré aussi. Et eux, dans leur décret d'appellation, ils doivent utiliser le cépage clairette au maximum. Donc c'est plus le goût, en fait. La blanquette, clairette, c'est un peu plus sucré. Et tout ce qui est crément de Limoux va ressembler vraiment à du champagne. C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur de faire des dégustations à l'aveugle avec des champagnes. Les consommateurs s'y trompent. Hein.
Voilà. Et en période de crise, c'est drôlement bien, parce que le crément, ça reste quand même moins cher que le champagne.
Alors en plus, le champagne va très bien, et donc les fournisseurs champenois ont des grosses velléités de vendre beaucoup de leur production à l'exportation. Donc il y a eu des grosses hausses de tarifs sur les champagnes. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de champagne à moins de 10 euros, ça n'existe plus. Donc les champagnes sont très chères, et plus en période de crise en France, effectivement, on a un retour, un attrait des consommateurs sur nos produits, parce qu'effectivement... Au départ, on a plus tout pour les fêtes familiales, etc. Tendance à acheter du champagne, mais une fois qu'on a goûté ça, si on ne sait pas que c'est du champagne,
mieux vaut un bon crément qu'un mauvais champagne.
Exactement. Alors c'est
un
petit peu l'adage. Et puis souvent, quand moi j'en amène chez des amis, etc., ou qu'on en amène dans des soirées, les gens nous disent il y a plus de champagne. Il est où le champagne? Parce que personne s'est rendu compte que c'était pas du champagne. Ouais. Le goût est tellement similaire. Aujourd'hui, c'est très difficile de le reconnaître. Voilà.
Vous pouvez me passer la bouteille, s'il vous
Bien
plaît
sûr.
Parce que je veux la voir,
moi,
je veux la montrer à la caméra. Vas-y, oui, vas-y.
Une question, d'où vient le nom de crément? Blanquette, clairette, on peut deviner.
Voilà. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a des créments dans toutes les régions de France.
Et oui.
Où est-ce qu'a été créé le premier? C'est peut-être l'Alsace, qui est peut-être à l'origine, ou le Jura. L'Alsace, qui est proche de la Champagne. En fait, il y a des vignes qui sont vraiment très proches entre le Champagne et le crément d'Alsace. Hein. De l'autre côté de la route, c'est du Champagne, de l'autre côté, c'est du crément. Donc peut-être qu'à l'époque, les Alsaciens, qui sont pour l'un de la Champagne, ont voulu créer une bulle en se rapprochant. Mais je suis désolé, je ne connais pas l'origine du nom.
À votre. Alors, c'est de la bulle fine, c'est de la bulle comme dans le champagne. Hein. Est-ce qu'elle est calibrée, cette bulle, Christophe Magui, directeur commercial de
Sueur
d'Arc?
Alors, la bulle, le produit en lui-même, au niveau de l'effervescence, on cherche justement à avoir cette bulle fine qui est une bulle qualitative. Après, la hauteur de la bulle, la diffusion de la bulle dépend du verre.
Il paraît qu'il faut qu'il soit sale pour que ça bulle alors, bien.
Alors, un verre quasi propre ne bullerait pas. Un verre qui serait nettoyé en laboratoire et qu'on le rendrait complètement ne bullerait pas. Donc, effectivement, alors, un verre classique, il ne faut pas qu'il soit archi sale pour que ça bulle. Ça bulle dans tous les cas. Voilà.
Mais est-ce qu'elle est calibrée? Est-ce que, justement, vos œnologues, vos équipes...
Ça vient de la qualité de la liqueur que l'on introduit pour donner ce côté effervescent, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vinification où on met une liqueur que l'on fabrique nous ou que l'on achète pour déclencher ça. Et en fait, c'est la qualité de cette liqueur qui va donner cette bulle avec la taille de cette bulle.
À la liqueur, vous l'achetez, vous ne la faites pas. Elle n'est pas produite par les vignerons de Limoux.
On a les deux. C'est-à-dire que c'est... Il y en a qu'on achète, il y en a qu'on produit. C'est un métier à part, c'est un métier très spécifique. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille pour la cave de Limoux. Donc j'en entends parler souvent en réunion. Je dois vous dire que c'est un côté technique qui est très spécifique au niveau œnologie. Donc je ne suis pas hyper câblé sur ça, parce que je n'ai pas un diplôme d'œnologie. Mais je sais que la qualité de la liqueur peut plus ou moins améliorer la qualité du vin et la qualité de la bulle, effectivement. Tout à fait.
Bon, ça irait quand même super bien, non, sur une glace. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadine Oustry?
Parce que ça irait très bien avec une glace, un dessert, encore mieux avec une omelette norvégienne.
Ouais. Ouais. Et alors, vous avez une omelette norvégienne?
Oui, j'espère.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, peut-être que le temps que vous sortiez
de la balle au trésor.
Ouais, peut-être que...
Je parle de la lune.
Tu pourrais nous parler de la lune, oui.
Elle va nous faire rêver.
Voilà. Alors, Rémi, bien avant qu'on allunisse, que Neil Armstrong pose le pied sur la lune, le 21 juillet 1969, la lune a toujours fait rêver. On peut penser à Jules Verne, de la Terre à la Lune, à Tintin avec Objectif Lune et On a marché sur la Lune, ou au poète Alfred de Musset qui, dans la Ballade à la Lune, écrit « C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la Lune, comme un point sur un i. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil ?» Es-tu l'œil du ciel borgne? Quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard? Chérubin ou esprit sombre, son influence sur les plantes, les arbres, les bêtes, les gens n'est plus à démontrer. J'ai lu que les trufficulteurs ont remarqué qu'ils ramassent les plus belles truffes en période de lune vieille. La lune vieille est la lune décroissante après la pleine lune. Il faut, dit-on, semer et repiquer les salades les jours de pleine lune. L'orge et l'avoine de printemps se sèment à la lune vieille. Si les graines sont mises en terre en période de lune nouvelle, on ne moissonnera que des repousses. Il est conseillé de tondre les moutons en mai, lors de la pleine lune. La nouvelle toison poussera mieux. En de nombreux lieux, le cochon est tué par vent du nord et vieille lune, car le jambon prend mieux le sel et sèche mieux. On dit aussi qu'une lune jaune annonce un vent violent. Le calendrier lunaire est devenu l'allié des jardiniers. Est-il aussi celui des cuisiniers? J'ai lu qu'il fallait tenir compte de certaines phases de la lune pour réaliser une bonne choucroute et un bon pain au levain. Rémi, en tiens-tu compte quand tu fais du pain?
Oui.
En tout cas, quand le soleil a rendez-vous avec la lune et que la lune n'est pas là et que le soleil l'attend, cela donne une chanson de Charles Trenet. Qu'on aurait pu écouter. Voici pour la lune.
Et alors aussi, c'est vrai que la lune est en train de décroître, je crois, et qu'il nous tarde bien qu'elle change de phase pour que peut-être on ait autre chose que de la pluie. Parce que c'est vrai que là, ça fait presque un mois qu'on a de la pluie.
Les vignerons en biodynamie qui tiennent beaucoup compte de la lune pour les traitements, les vendanges, le travail à la vigne, etc. Et qui tiennent vraiment compte des cycles lunaires pour intervenir dans le travail de la vigne.
Il y en a quelques-uns en biodynamie, des coopérants
Alors on a des coopérateurs qui sont en biodynamie. La majorité sont en HVE, en haute valeur environnementale. Et on a quelques-uns qui sont en bio et d'autres en biodynamie. Biodynamie, ça va encore plus loin
On enterre des cornes. Il y aurait notre vigneron préféré, Paul Chéreau, il nous le raconterait parce qu'il fait ça dans ses vignes. Je reviens vers vous, évidemment, dans un instant, mais là, on a C'était oui, une blague quand je parlais d'omelette norvégienne, mais c'en est une.
Moi, j'étais sérieuse. C'est vraiment une omelette norvégienne.
Nadine Oustry, ça, c'est une omelette norvégienne qu'on peut acheter sur le Drive Fermier 82, non ?
Oui, entre autres, et dans plusieurs magasins producteurs de la région, notamment le domaine de la Prade, les Saveurs du Car et tout, et le Bon, le Brut et le Gourmand à Saint-Étienne de Tulmont qui a ouvert il y a un an.
Ouais. Et vous serez sur le marché de Noël chez du Philippe Romain au domaine de Montès.
Le 17.
C'est quoi votre parcours, Nadine ? Avec votre mari, vous avez repris la ferme familiale, c'est ça ?
Oui, on a repris la ferme familiale dans les années 2000. On était exclusivement producteurs laitiers. On se produisait déjà toutes les céréales pour nos vaches. On a essayé d'augmenter notre troupeau et finalement, on s'est aperçu que ça ne correspondait pas du tout à nos valeurs et à ce qu'on cherchait.
Parce que déjà, en 2000... c'était déjà, ça fait longtemps qu'elle est là, cette crise du lait quand même,
ouais, en 2000 encore ça allait, les premières années on s'en sortait, enfin ça fonctionnait, mais après nous, enfin l'augmentation du troupeau, ça correspondait pas du tout à nos attentes et à ce qu'on cherchait.
Ouais.
On voulait revenir plus petit et faire du produit.
Combien de vaches vous avez au moment où vous prenez le...
Alors, on avait... Mes parents avaient 25 vaches et mes beaux-parents aussi, donc on a tout regroupé et après on est monté à 70.
D'accord. Et pour que ça, pour que à la Chambre d'agriculture, on vous valide un bon projet qui fonctionne et qui rapporte, il fallait investir combien ?
Alors là, j'ai oublié, on n'a jamais suivi les recommandations de la Chambre d'agriculture parce qu'on ne voulait pas s'enfoncer dans des crédits et rembourser éternellement.
Il aurait fallu un troupeau énorme.
Ouais, voilà. Donc on a fait une super stabulation où les vaches sont bien, sont à liberté. Elles sortent tout l'été en pâturage. Elles sont nourries à la luzerne exclusivement, que ce soit été ou hiver, qu'on cultive nous-mêmes. Et après, maintenant, elles sont 25 dedans et elles sont encore mieux.
25, pas plus.
Ouais, pas plus.
Avec 25, vous faites du lait que vous transformez en glace. Et puis le reste, ça part...
Ça part à la laiterie.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est viable et ça fonctionne.
Ça va, c'est viable et ça fonctionne.
Bon, mais il a fallu quand même faire des investissements, j'imagine, parce que pour pouvoir fabriquer des glaces, ça demande un peu de matos, non ?
Eh bien, tout à fait. On a monté un laboratoire à la ferme il y a 6 ans maintenant. On transforme tout nous-mêmes. C'est fait tout à la maison, de la transformation à la glace, à l'emballage, au produit fini, la mise en pot, la livraison est faite par nous-mêmes.
Vous êtes combien à la ferme ?
2.
Ah oui. Oh là là. Vous travaillez combien d'heures par jour ?
On ne regarde pas.
Et toutes les compétences de transformation pour faire la glace, du coup, vous avez suivi une formation avec votre mari ?
Oui, on a suivi une formation.
D'accord.
Une partie avec l'école de Purpan et après une partie avec des glaciers.
Et les recettes, vous les avez faites comment ?
Et les recettes, on est 4 en France à les avoir. On est un groupe d'agriculteurs quand même. On est seulement 4 à avoir ces recettes-là d'une glace sans air ajoutée, qui a ce crémeux particulier.
Alors, c'est quoi cette histoire de glace sans air ajouté ?
Alors, sans air ajouté, ça veut dire que son poids est égal à son volume, hormis une glace du commerce qui va faire 750 ml et peser 500 grammes ou 400. Nous, la nôtre, elle va peser le même poids que le volume.
D'accord. Un kilo de glace.
Un kilo.
Un litre de glace.
Voilà.
D'accord.
C'est tout à fait ça. Okay. Et ça change la texture quand même quand on la déguste.
Je voulais avoir l'info, hein. Moi je ne l'avais pas.
Hein. Oui, moi non plus.
Savoir sans air.
Nous non plus, avant, on ne l'avait pas. Non, non. Tout à fait.
Et donc là, pour les fêtes de Noël, vous faites des bûches.
Oui, cette année, on a fait 10 parfums différents.
Lesquels ?
Alors du coup, on a fait vanille caramel beurre salé, qui est quand même la plus vendue, il faut le savoir. Les gens sont habitués, ça fait 6 ans qu'on l'a fait, on ne peut pas la lever, quoi, c'est sacré. Et voilà. Ensuite, nous avons 3 chocolats, framboise spéculoos, café noisette, poire chocolat, forêt noire, citron framboise en tout sorbet pour les gens qui seraient allergiques au lait, qui est faite avec des sorbets avec 52% de fruits entiers à la base et qui après sont passés en sorbet. Et banane chocolat et une très originale en 3 parfums parce qu'on nous demandait de l'exotique depuis un moment, c'est mangue citron vert coco qui apparemment démarre très bien.
D'accord.
Vous avez beaucoup de choix.
Et ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites un peu vos propres recettes.
Carrément.
D'accord.
On est libre de sortir un parfum, en mettre un, en faire à la demande des gens.
D'accord. Vous êtes, c'est pas sous une franchise, c'est pas sous une
pas
marque
tout,
particulière.
Non.
D'accord. Faites ce que vous voulez.
On fait ce qu'on veut.
Ce sont les glaces du GAEC Cantepoule à Saint-Vincent-d'Hautejac, en Tarn-et-Garonne, qui se marient admirablement avec. Les bulles de limoux, Aguila.
Aguila, donc ça c'est notre cuvée qui est vendue en grande distribution. Et on a aussi des cuvées vendues en réseau traditionnel qui s'appelle Première Bulle, la plus connue s'appelle Première Bulle.
Oui, avec une robe rouge, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, une coiffe rose, voilà. Ouais, première coiffe bulle, rose, ouais. une bouteille qui est très visible. Voilà, donc en fait, on a des produits différents en fonction du circuit de distribution.
D'accord. Et ça, Aguila, au supermarché, on le trouve à combien ?
6,90 aujourd'hui, avec les promotions en fin d'année, ça sera à 5,50 à peu près.
Hop, servez-vous.
C'est vachement accessible finalement.
Ah oui, par rapport au prix d'une bouteille de champagne, c'est très accessible.
Voilà, on fait un repas de Noël pas cher. Parce que même les glaces, elles sont pas chères. Combien c'est une glace ?
Après, ça dépend, parce que nous, on fait de l'individuel, du 6-8 parts. Ouais. Ben, le 6-8 parts, un format classique, c'est à 19 euros et l'omelette norvégienne à 20 euros.
Bon,
ça reste accessible
aussi. Bah oui, ça reste accessible. Oui,
l'omelette norvégienne, c'est aussi 6-8 parts. Ou plus.
Oui, on peut faire du 12 parts et aussi de l'individuel comme là.
Vous écoutez CFM, c'est qu'est-ce qu'on déguste ? On revient dans un instant.
CFM, vos infos. CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
Est-ce que vous êtes en place, Christophe Magui, vous êtes en place ? Vous êtes en place, attention. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite.
Ouais,
magnifique geste de Christophe Magui qui a l'habitude, hein, il est directeur commercial de Sieur d'Arc. Sieur d'Arc, c'est les caves de Limoux, la cave coopérative des vins de Limoux. Sieur d'Arc, parce qu'apparemment c'était un seigneur qui, à l'époque, à chaque fois qu'il avait des victoires, il se bagarrait, il gagnait et hop! Et il buvait de la blanquette,
c'est ça, ah. Exactement.
On a des traces de ça, c'est aux archives de...
Il y a des traces de ça, c'est de ça que vient le nom, quand les coopérateurs ont décidé vraiment... À l'époque, les vignerons se sont rassemblés pour essayer d'être mieux rémunérés, plutôt que de vendre tout seul. Ils se sont rassemblés pour rassembler leur coût de production, pour faire les vinifications ensemble, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a 180 coopérateurs et sur 1500 hectares.
D'accord. 4 terroirs sur 1500 hectares apparemment. Hein,
4 terroirs. Alors, les terroirs, ça concerne plus les vins, ce qu'on appelle tranquilles, qui vous a surpris tout à l'heure, donc les vins non effervescents, on va dire. Donc on a le terroir océanique, qui est le plus près de l'océan Atlantique, donc c'est assez étonnant. Il n'y a pas de montagne entre l'océan Atlantique et Limoux. Et donc on a des influences
des entrées maritimes,
ce qui donne à ce vin là qui est un petit peu différent un côté très salin. En dégustation, c'est celui que j'ai amené. Donc il y a un côté salin qui donne envie de revoir. Après on a le Haute-Valais qui est aujourd'hui le plus réputé. C'est celui qui est le plus en altitude, avec le plus de coteaux. Nous on aime bien le comparer au vin de Bourgogne. C'est vraiment des chardonnays très typiques, très gras. Donc qui ressemble vraiment au vin de Bourgogne. Ensuite, on a le terroir Autant qui est le plus proche de la ville de Limoux. Et pour finir, on avait donc un terroir méditerranéen, donc on a plus le droit d'appeler comme ça, qu'on appelle maintenant maritime, qui lui est le plus près de la Méditerranée, donc qui est un terroir un peu plus chaud, où la chaleur intervient un peu plus. Donc en fait, sur 30 ou 40 km d'écart entre deux vignes, entre les vignes, on a des spécificités vraiment très différentes sur un cépage vraiment identique. Voilà.
D'accord.
Et puis le réchauffement climatique, ce classement a été fait dans les années 90, et le réchauffement climatique bouleverse un peu tout. Le méditerranéen qui était le terroir le plus chaud, ben aujourd'hui on a des vins qui sont très frais, c'est assez étonnant. Voilà, donc
Vous avez manqué d'eau ou pas ?
On manque d'eau, oui. Ouais. On manque un petit peu d'eau. Alors la chance qu'on a eu cet hiver, c'est qu'il a neigé. Et la neige est très bonne pour les vignes, parce qu'elle fond tout doucement et elle rentre très lentement, donc ça ravine pas. Quand il pleut très fort d'un coup, en fait... Ouais. Ça descend et ça ravine, donc ça ne mouille pas nos terres, parce qu'on a beaucoup de vignes en coteaux. Donc la neige a fait du bien cet hiver. Donc au niveau de cette vendange-là, on a manqué un peu d'eau, mais c'est plus la maladie. On a eu une perte de 30% de notre récolte avec le mildiou cette année, oui, malheureusement. Malheureusement, ça a été très très compliqué cette année à cause du mildiou, un petit peu à cause de l'eau, mais surtout à cause des maladies, à cause du mildiou, tout à fait.
180 coopérateurs, hein, c'est
180
ça
coopérateurs avec un conseil d'administration, un président, comme une coopérative agricole classique, sauf que nous on appelle ça une CAF coopérative.
Et là, que soit la Blanquette de Limoux, les Créments ou les Vins Tranquilles, aujourd'hui la commercialisation, elle est plutôt régionale, elle est plutôt nationale, alors, ou est-ce qu'on en boit aussi en Corée du Sud?
Alors on produit environ 9 millions de bouteilles, tout cumulé, entre les bulles et les vins. Le réseau export est un gros réseau chez nous, puisqu'il pèse plus de 40% de notre chiffre d'affaires, donc on en vend partout dans le monde. Je crois qu'on est diffusé dans 70 pays aujourd'hui. Nos plus gros clients, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, les États-Unis, l'Australie. L'Australie, c'est gros consommateur aussi. L'Allemagne, l'Angleterre, voilà. Mm-hmm. Donc, c'est nos principales destinations. Et ensuite, donc, le reste est fait par la grande distribution et les circuits traditionnels en France. Voilà.
Aguila, là, que vous nous avez apporté, ça se retrouve à l'étranger ou pas?
Alors,
pour savoir, par curiosité, par exemple, une bouteille qui vaut 6 ou 7 balles ici, combien elle vaut aux États-Unis ou en Australie?
Alors, voilà, le vin aux États-Unis est vendu très cher.
Oui, c'est ça.
Parce qu'acheter du vin aux États-Unis, c'est un critère de richesse. Voilà, donc, il n'y a pas de bouteille à 2 euros, à 2 dollars comme aujourd'hui en France. Aux États-Unis, la première bouteille est à 6 ou 7 dollars. Donc c'est un système un petit peu différent. Donc, non, c'est des produits qui sont vendus 8-9 dollars aux États-Unis. Après, il y a des taxes, il y a des douanes, il y a des choses un petit peu différentes. Donc ce n'est pas moi qui m'occupe de l'export parce que je ne parle pas anglais. je ne pourrais pas faire grand-chose. Moi, je m'occupe de la partie grande distribution.
Et ça veut dire quoi, Aguila?
J'allais poser la question.
Aguila, c'est
T'as été trop rapide.
C'est le nom en occitan de l'aigle qui survole les Pyrénées.
Oh.
Voilà l'histoire. Et... Alors quand on l'a lancé, c'est assez étonnant parce qu'il y a une petite connotation espagnole. Au début, dans les rayons, on nous mettait côté du cava, à côté de Fraxinette, la bouteille noire. Là. Voilà.
Ah, oui, Fraxinette.
Parce qu'il y a une petite connotation espagnole. En fait, voilà, c'est là qu'on a trouvé le nom. On a voulu faire quelque chose d'un petit peu original. En fait, le marché de la grande distribution n'est pas forcément un marché d'appellation sur les bulles. C'est un marché de marque, même en champagne dans notre région. Les gens achètent des champagnes de marque plutôt que des champagnes de propriétaire. Et sur les bulles non champagne, c'est la même chose. Aujourd'hui, les bulles les plus vendues, ce sont des bulles de marque. Donc on a voulu vraiment lancer une marque plutôt que parler de Limoux. Surtout qu'aujourd'hui, malheureusement, l'image de la Blanquette n'est pas toujours très bonne.
Et pourquoi ça, en fait?
On nous dit toujours, c'est le premier truc que j'ai bu pour les 70 ans de mon grand-père quand j'avais 12 ans, j'ai fini les verres, etc. Voilà.
J'ai encore des aigreurs.
Je pense qu'en fait, on n'a pas su moderniser l'image de la Blanquette. Voilà, qui a eu une image un petit peu vieillotte. Oui. Dans les années 2000, ils s'en faisaient énormément. Hein. Nous, on produisait déjà à l'époque 7 millions de bouteilles de Blanquettes. Maintenant, aujourd'hui, c'est réparti. On fait quasiment plus de Créments que de Blanquettes aujourd'hui. Donc, il y avait une image un petit peu vieillotte et que l'interprofession ou nous n'avons pas su moderniser. Par contre, aujourd'hui, l'image du Crément est très bonne et très moderne. Et donc, c'est pour ça qu'on part à fond sur ça. Quoi. Voilà.
D'accord. Bah oui, à fond. Hein. Tant est si bien que vous ne nous avez même pas emmené une Blanquette. Moi, j'étais sûr que vous alliez nous emmener une Blanquette.
J'aurais pu amener une première bulle, effectivement, mais bon, comme moi, c'est des gammes. Aujourd'hui, ça y est, j'arrive à en vendre 500 000 bouteilles en France de la marque Aguila. Donc, ça commence. Le produit n'a que 6 ans. Il a été créé il y a 6 ans, donc c'est un produit qui est tout récent. Donc, on est à fond sur ce produit avec mes équipes.
En tout cas, il y a un joli packaging.
Vendre. Oui, tout à fait.
Alors, vu d'ici, le A ressemble au A de Auchan, mais ça, je dis rien.
Non, alors. Je vais vous raconter une anecdote, on a été attaqué par Jay-Z pour notre A.
Ah bon?
Parce qu'il fait un champagne qui s'appelle Armand de Brignac, qui avait un A qui ressemblait à Aguila, donc il nous a attaqué en disant qu'on lui faisait de l'ombre.
Jay-Z.
Donc il a fallu qu'on modifie notre A, c'est pour ça que notre A, il y a une espèce de plume au milieu, parce que Jay-Z nous a attaqué, puisque c'est lui qui est propriétaire de la marque Armand de Brignac, il a trouvé que notre A ressemblait un peu trop à son A.
Eh oui, parce qu'on a deux A différents là, du coup.
Alors ça c'est l'ancienne étiquette. C'est celui-là. D'accord. Qui ressemblait à Armand de Brignac. Et là, vous avez la nouvelle avec effectivement la plume au milieu.
Ah oui.
Voilà. La plume qui ressemble à Auchan.
Après, elle est plus belle, honnêtement. Hein,
ouais.
C'est plus sobre, c'est plus joli. Sobre.
Et ensuite, on met le rosé dans une bouteille verte. Il y a quelques rosés qui sont mis en bouteille blanche. Le problème, c'est qu'avec la lumière artificielle, ça abîme très très vite le vin. Il a tendance à devenir, là, quand on l'a dans la flûte,
très foncé.
Il est saumonné, il est rose clair. Quand on le laisse en bouteille, avec les lumières artificielles, il devient très vite orange. Donc c'est pour ça qu'on préfère le laisser en bouteille verte pour vraiment protéger le vin jusqu'à ce qu'il soit consommé.
D'accord.
Voilà. Après, c'est un parti pris qu'on a voulu faire nous. Le consommateur voit bien que c'est du rosé avec l'étiquette rose.
Avec
l'étiquette.
Oui.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Bon, ben, on va le goûter alors.
Eh oui.
Hop.
la différence entre les entre le je la bouteille. À la limite, la différence.
Est-ce qu'on le goûterait pas avec une, un petit morceau de glace? Allez, moi je dis ça.
La différence entre le brut et le rosé au niveau de l'encépagement, c'est simplement que sur le rosé, on met du pinot noir.
Merci Sophie.
Ouais.
Donc qui amène au niveau de l'assemblage la couleur de manière naturelle, puisque le pinot noir est un cépage rouge. Bon, on peut s'en servir pour faire du blanc en enlevant la peau au moment des au moment de la vendange, au moment du pressoir. Mais là, du coup, en mettant du pinot noir, en fait, ça donne la couleur. On en met 15%, ça donne de suite la couleur naturelle avec le chardonnay, le chenin, en fait. Voilà.
D'accord. Oui, parce qu'il y a des vins rouges aussi à Limoux. On peut boire des vins tranquilles rouges.
C'est pas sur ça qu'on cherche vraiment à se faire connaître.
Non.
C'est très compliqué parce qu'on a un décret d'appellation qui demande d'utiliser 5 cépages minimum. Donc c'est pas et puis on n'a pas c'est pas vraiment ce qu'on cherche à développer. Nous on est vraiment sur la bulle et le blanc et un petit peu le rosé. Voilà.
Et donc parce que vous avez quand même un AOC non
Oui on est en fait quand on a eu l'AOC Limoux on a eu la même temps l'AOC Limoux blanc et l'AOC Limoux rouge.
Ouais.
Et l'AOC Limoux blanc on le développe beaucoup avec notre manifestation annuelle qui s'appelle Tox et Clocher.
Ouais.
On reçoit à peu près 30 000 personnes sur Limoux qui va de village en village et qui est une opération caritative qui sert à restaurer les clochers de chaque village où a lieu la manifestation.
Ouais, ça, donc... c'est super. Vous vendez aux enchères des barriques entières.
C'est ça.
Une partie de ce prix-là va à la restauration
du clocher. La barrique du village où on est sert à la restauration du clocher. Donc là, on va fêter la 35e édition avec un chef 3 étoiles qui vient de Cassis, qui vient cette année. Tous les ans, il y a un chef 3 étoiles aussi qui vient faire à manger pour nos clients où on peut s'inscrire aussi.
C'est quand, là?
C'est le 12 et 13 avril. Voilà.
Et alors, c'est où, pardon?
À Limoux. Alors, cette année, c'est à Limoux. Ça sera la journée populaire sera le 13 avril. Et là, on attend à peu près 30 000 personnes. Donc, c'est une sacrée organisation. Quand c'est dans des villages où il y a 500, 600 habitants toute l'année, d'organiser pour recevoir 30 000 personnes sur le site avec la sécurité qu'il faut, les transports, les bus, etc. Et puis pouvoir garantir la sécurité des gens par rapport à l'alcoolisme pour qu'ils puissent repartir. Ouais, on les fait garer à des parkings, on les amène en bus. Voilà. Et la journée, c'est midi, minuit. Avec tout sur place, il y a des points de restauration, il y a des groupes de musique. C'est très, très festif et les gens attendent ça tous les ans avec impatience. De toute façon, à Limoux, il y a le carnaval. Après, on achète sur Tox et Clocher. C'est une ville très, très festive.
C'est le carnaval le plus long du monde, le carnaval de Limoux.
Ah bon?
Ben, ouais, oui.
Je ne savais pas du tout.
Ça dure pendant des semaines et des semaines et des semaines.
Oui, ça commence au début décembre et chaque week-end, il y a ce qu'on appelle les sorties de carnaval. Ah, voilà.
C'est extraordinaire, c'est à faire. Hein. Il faut aller là-bas le dimanche et chaque dimanche, il y a des équipes.
Ça s'appelle des bandes. Équipes.
Ça s'appelle des bandes.
Et voilà. Pourquoi ça commence
comme
début décembre
début janvier. C'est comme les peignets au Pays Basque. Voilà, chez nous, ça s'appelle des bandes. Et il y a plusieurs bandes. Et tous les week-ends, il y a deux ou trois bandes qu'on appelle qui sortent. C'est-à-dire qu'ils font le tour des différents cafetiers
de Limoux.
Et les gens les suivent. Ils sont déguisés. À l'école, tous les gamins dans toutes les écoles primaires préparent dès le mois de novembre, décembre, chacun son costume. Et les gamins sortent le week-end. Il y a des danses spécifiques. Enfin, oui, c'est.
Et c'est de janvier jusqu'à quand?
C'est de janvier jusqu'à avril, je crois.
Ça ne
dure
pas
très longtemps.
Ouais, c'est extraordinaire. Vous avez déjà fait partie d'une bande, enfin d'un ou deux?
Non, je suis pas limouxin.
D'accord.
Normalement, faut être limouxin ou immigré depuis longtemps à Limoux pour y être. Moi, je suis montalbanais et fier de l'être. Donc, je travaille à Limoux. Mais non, j'ai jamais fait partie d'une bande. Par contre, j'ai déjà participé au carnaval et puis Tox et Clocher forcément, puisque je fais partie de l'organisation puisque tous les ans, on reçoit à peu près 200 clients de France et du monde entier, plus 30 000 personnes.
Mais les bandes de Limoux, ce qui est rigolo, c'est que t'as des bandes selon des classes sociales, quoi. T'en as qui sont beaucoup plus rigolotes que d'autres, quoi.
D'accord.
Ils sortent dimanche, mais ils commencent déjà ils préparent parce qu'ils se déguisent les costumes toute l'année. Donc les gens des bandes se voient toute l'année et ils commencent le vendredi matin et ils finissent le lundi soir. C'est-à-dire qu'ils passent 4 jours ensemble. Sans femme, sans enfant, sans rien, qui les rejoignent tantôt, mais ils passent vraiment 4 jours ensemble. Donc c'est très très festif.
D'accord. Mais du coup, vous disiez que vous étiez montalbanais. Comment vous êtes arrivé à la cave coopérative de Limoux?
Par recrutement, en fait.
Juste comme ça.
Oui, je travaillais dans la grande distribution. J'ai une activité qui ne demande pas d'être au bureau. J'y vais.
Tu peux faire du télétravail.
Puis je suis beaucoup en déplacement sur le terrain, donc j'y vais une fois par semaine.
D'accord.
Et puis le reste du temps, effectivement, je suis sur le terrain pour aller dans les magasins, rencontrer les enseignes de grande distribution, les centrales d'achat, etc. Voilà.
Ok.
Bon, avant de vous laisser partir, parce que vous avez des obligations, Christophe Magui, je vous invite à goûter.
Elle est très très bonne.
Hop, alors on est sur quoi là, sur cette glace-là,
Nadine? Justement, je vous laisse deviner le parfum pour voir.
Pastis ? Non ?
Non.
Non.
Framboise ?
Framboise et...
Alors ?
Excellent, hein ?
Ben, caramel ?
Non, celle-là, non.
Pas caramel, ça ?
Non. Non, après, la framboise est très forte, donc ça a tendance à atténuer un peu le goût, mais c'est spéculoos.
Ah, spéculoos, d'accord.
Oui, maintenant que c'est dit, voilà. On le devine de suite. Oui. Ah, c'est d'accord. Super bon.
Et voilà, et ça avec un petit peu de bulle. On est pas mal.
C'est pas mal.
Vous faites ça toutes les semaines, c'est quand même agréable. Hein.
Tous les vendredis, goûte.
On est pas mal.
Il faut combien de temps pour préparer une glace comme ça ?
Alors du coup, une bûche glacée, 2 jours puisqu'il y a 2 parfums. Donc il faut que la première, le premier parfum prenne dans le moule à bûche et que le lendemain, on mette par-dessus le parfum ou 3 jours s'il y a 3 parfums. Et ensuite, la décoration, 1 jour de plus. Donc voilà, en général, Je fabrique les lundis, mardis, mercredis. Je décore les jeudis, je livre les fins de semaine, vendredi, samedi.
C'est un travail d'artiste en même temps.
Oui, petit artiste quand même.
Il faut de la créativité finalement.
Oui, ah oui, pour les décors des bûches, ouais, quand même. Oui, on essaye chaque année de faire des décors un peu sympas.
Entre le drive fermier, les boutiques de producteurs, quels sont les meilleurs débouchés pour vous ?
Ça se complète. Et oui, après il y a les particuliers pour Noël qui viennent chercher à la ferme sur commande aussi, en m'appelant directement.
D'accord.
Voilà. Et ça se développe de plus en plus, ils aiment bien parce qu'ils ont l'impression qu'on a fait leur bûche pour eux et c'est un peu le cas, donc voilà.
Bah ouais.
Mais c'est plaisir. Personnalisé quasiment.
Voilà, c'est un peu personnalisé aussi.
Mais les glaces, vous en faites toute l'année ?
Oui, après un pot, on en fait toute l'année, ouais. Et on fait aussi des desserts glacés pour les anniversaires sur demande, et là, souvent, on laisse les gens choisir le parfum.
Et du coup, par rapport à la saisonnalité des lactations ? Comment ça se passe par rapport à ça ?
Ben, en vache laitière, on n'a pas de saisonnalité. En fait, on a des vélages répartis sur toute l'année. On a du lait toute l'année. Parfait. Donc, on n'a pas de problème par rapport à ça.
Et c'est pas comme les chèvres.
Les vélages,
oui.
Les vélages sont plus... même s'il peut en avoir un peu dans le bovin, mais c'est sûr que c'est plutôt les chèvres qui ont une saisonnalité plus marquée. Oui.
Mais nous, on est allé en vélage sur l'année. Donc, on a tout le temps plus ou moins des vélages et tout le temps la même quantité de lait.
La constante.
Ouais. Donc on n'a pas de souci avec ça.
Et pourquoi les glaces et pas forcément les yaourts par exemple ?
Ben parce que les yaourts, il y avait déjà des producteurs sur le Tarn-et-Garonne quand on était installé. Puis il fallait passer plus de volume, la DLEC est plus courte aussi. Et la glace, c'était un produit qui n'existait pas en Tarn-et-Garonne en conventionnel. Il y avait déjà du bio, mais pas de conventionnel. Donc on s'est dit pourquoi pas.
D'accord. Et c'est toujours le cas sur le Tarn-et-Garonne ?
Eh bien oui, est-ce que je sache ? Oui. Il y a toujours du bio, mais il n'y a pas de conventionnel.
Parfait, comme ça.
Des glaces à mettre sur les tables pour les fêtes de Noël avec des bulles, donc Aguila ou encore de la bulle de Limoux. Sous le sapin, je vous propose un petit bouquin d'André Pérenne que j'ai eu le plaisir de recevoir il n'y a pas très très longtemps. Il est musicologue, c'est un grand chef d'orchestre, il a dirigé des conservatoires. Et il était au conservatoire de Montauban il n'y a pas très très longtemps pour faire une petite conférence sur la musique classique. Il a écrit ce bouquin qui est aux éditions d'Esclébrouwer. Petites histoires de la grande musique. Si j'avais eu ça quand j'étais gamin, j'aurais été super fort en musique. C'est plein de petites anecdotes qui remontent le temps de l'histoire de la musique depuis le XIIe siècle jusqu'au XXe siècle, en racontant les boires et les déboires des musiciens. C'est extraordinaire. Vraiment, ça dure 3-4 pages à chaque fois. Et à chaque fois, il propose d'écouter un extrait de musique dont on parle. Alors là, je vous ai juste pris, comme d'habitude, un petit passage où on parle de nourriture, parce que sinon, ce ne serait pas qu'est-ce qu'on déguste. Et donc, il nous raconte l'histoire de Chopin, qui est avec George Sand à l'époque. Il nous raconte d'abord comment il met un vent à George Sand. Il voulait pas d'elle, il l'a trouvée moche et trop masculine. Et puis finalement, elle a insisté, elle a fini par la voir. Et lui, il toussait beaucoup, il était tuberculeux, Chopin, et elle a décidé de l'emmener sur les îles espagnoles.
Au Baléares, non ?
Ouais, voilà. Et donc, je vous passe tous les détails, mais ils finissent par aller à un endroit dans une chartreuse. Voilà. Donc Chopin et Georges Sand et ses deux enfants s'installèrent dans la chartreuse le 15 décembre 1838. Trois cellules de moines aux murs nus, sans meubles, données sur un jardin planté d'orangers. Georges Sand assurait l'approvisionnement, avouant être surfacturé pour le poisson, les œufs et les légumes. Elle acheta une chèvre et une brebis pour avoir du lait. Parfois, il était difficile de faire les courses. Fin janvier, elle écrivit. Depuis qu'il a plu par intermittence pendant 2 mois, nous avons souvent grignoté du pain aussi dur que du biscuit de mer et dîné comme de vrais chartreux. Chopin se fit envoyer de Paris un petit piano par son ami Pleyel. L'instrument arriva au début du mois de janvier, après qu'eurent été surmontées les difficultés de transport et payé l'énormité des droits de douane. Chopin travaillait, composait. Les voûtes de la chartreuse s'en réjouissaient, écrivit Georges Sand. Elle le voyait pâle, fiévreux. Fiévreux de maladie et d'ardeur créative, il composait ses préludes. Il y en aura 24 dans les 24 tonalités majeures et mineures de la musique classique. Un jour, il plut. On entendit des gouttes d'eau tomber jusque dans ses préludes numéro 6 et 15. Des préludes composés par Chopin, donc sur l'île espagnole, alors qu'il était bien malade. Hein, donc,
oui, ouais. Et surtout, enfin, moi j'avais lu qu'il travaillait tant et plus ses compositions pour revenir finalement à la première inspiration qui était toujours la meilleure, mais il ne pouvait pas s'empêcher de travailler, retravailler jusqu'à épuisement.
Cette histoire-là et plein d'autres, c'est dans Petites histoires de la grande musique, et c'est donc d'André Pérègne, chef d'orchestre, musicologue, conférencier, présentateur de concerts et de festivals, directeur du Conservatoire de Nice, etc., etc. C'est vraiment très très bien.
Oh bah, il nous reste donc un cadeau pour les fêtes.
Ah bah oui. Avec une glace comme ça.
Pour le canapé devant la télé.
Ouais.
Devant les films de Noël.
Ah, Berlioz poursuivi par la police.
Ah oui.
Bach emprisonné. Mm-hmm. Wagner amoureux de son roi.
Voilà.
Paganini dont le cadavre a disparu, mais je ne connaissais pas tout ça.
Ah mais c'est énorme. C'est incroyable. C'est plein d'histoires absolument extraordinaires.
Oui. C'est bon Rémi, tu pourras l'offrir à Anne du coup.
Voilà. Je reviens vers vous, Nadine Oustry du GAEC de Cantepoule. Vous serez donc à la fête de Noël du domaine de Montaïs.
Oui.
C'est quand ça?
C'est le dimanche 17 décembre.
Oh, donc
un peu de temps. Ouais, c'est dans 15 jours quoi. Ça va passer vite, hein.
Ouais.
Enfin, même une semaine, non, parce qu'on est le 10. Donc, non, c'est
la
semaine prochaine. Donc ça va passer très vite. Hein. Voilà, après les gens là pourront passer leur commande pour Noël ou prendre directement leur bûche glacée.
Parmi les 26 parfums, c'est ça, hein?
Non, les 10.
Les 10. Pourquoi est-ce que j'ai lu qu'il y avait 26 parfums? Pourquoi j'ai lu?
Un pot peut-être, ouais, mais un bûche du coup, non, j'ai que 10 parfums, c'est déjà pas mal.
Sur ma petite fiche, oui, j'avais marqué 26 parfums.
Oui, un pot de glace, oui, je dois même être un peu plus maintenant. Parce que toujours je complète, donc.
Et parmi les 10 choix, lequel vous conseillerez le plus?
Ah, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Oui. Voilà, ça dépend. Déjà,
lui qui a plus de succès, à part du coup, c'est la vanille,
caramel, ouais. ça, c'est sûr. Et après, ça se décline. Après, cette année, sur le format individuel, c'est assez demandé quand même parce que ça permet aux gens d'avoir une,
choisir.
Plus gamme, une large gamme à table. Chacun choisit son parfum. Le 12 parts, c'est vraiment celui qui sait ce qu'il veut et ou qui sont nombreux. Et après, le 6-8, c'est ce qui est le plus acheté cette année parce que les gens font un mix de 4-5 parfums. Voilà. Mais on laisse entièrement le client choisir, on ne conseille jamais.
Vous avez une boutique à la ferme, à Saint-Vincent-de-Jacques ?
Eh bien, on vend à la ferme sur rendez-vous, oui.
D'accord.
Et à Noël, il vaut mieux commander pour Noël ?
Oui, il vaut mieux commander pour Noël quand même. Après, il y a toujours ceux qui arrivent à l'improviste, mais c'est mieux de commander.
Bon, on a une recette ou on n'a pas une recette d'une de ces glaces, là ?
Ah, on a une recette, mais elle reste quand même assez secrète.
Ah. Mais bon, la base, c'est quoi ?
Bah, la base, c'est du lait, de la crème extraite du lait, du jaune d'œuf, et après, du chocolat, du spéculoos, du café, tout D'accord. un extrait le plus naturel possible. Et,
Donc, on met ça dans un mixeur, il faut que ça mixe vite, vite, vite,
voilà.
vite, vite.
Après, on pasteurise, donc même les femmes enceintes peuvent en manger, il n'y a pas de problème. Elle risque D'accord. rien.
Donc pasteurisé, c'est chauffé, c'est chauffé très fort.
Oui, tout à fait. C'est chauffé à 84 degrés. Il n'y a aucun risque sur tout ce qui est bactéries.
D'accord.
Et danger.
Et après, on a des congélateurs pour refroidir tout ça.
Oui, voilà.
Avec la facture énergétique qui va grossir. Là, j'espère que vous avez un peu des panneaux solaires à la ferme.
Eh bien, pas encore, mais ça va venir parce que sinon, ça va devenir trop cher.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Non, mais tout à fait. Ouais.
Parce que ça demande justement beaucoup d'énergie pour pouvoir faire des glaces.
Ah, bah oui, du coup, c'est. Oui. C'est tout stocké en froid négatif et même la livraison en froid négatif. Il y a un suivi de la chaîne du froid, par contre.
Donc là, vous y pensez réellement à trouver des solutions énergétiques ?
Ben oui, à pas avoir le choix.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste avec Nadine Oustry du GAEC, Cantepoule et ses glaces qu'on n'a pas fini de déguster dans un instant.
CFM, vos infos.
Pour l'actualité, bonne soirée à tous.
CFM Radio.
Mais qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Bah oui, bah écoute, la bouteille elle est partie là-bas, le monsieur de Limoux il est parti, il a laissé la bouteille, c'est gentil de sa part.
Oui,
mais elle est débouchée, voilà, il faut l'ouvrir, il faut l'attraper, il faut l'ouvrir. On va faire ça hein, de toute manière pour avoir notre conversation avec Nadine Oustry du GAEC de Cantepoule. Donc cette ferme laitière installée à Saint-Vincent-d'Autejacques que vous avez reprise depuis 2001, c'était la ferme de vos parents.
Hein.
Et donc 25 vaches aujourd'hui, la moitié qui va à la laiterie, puis le reste vous faites, c'est ça à peu près, c'est 50-50 ?
Oui, ça dépend des saisons. Janvier, février, là ça va être plus calme, ça fait du bien aussi pour se retrouver.
D'accord. Oui, ça laisse, parce qu'on a l'impression déjà d'avoir une ferme laitière, c'est déjà du boulot.
Mais ah oui, donc, c'est du travail quotidien.
Voilà, vous n'êtes que deux, donc rajouter la préparation, puis la commercialisation de ces glaces, on se dit qu'il faut avoir 80 heures à bosser par semaine, non, c'est ça ?
Ouais, on calcule pas, on l'a jamais fait. Non, après, c'est, enfin voilà, la traite et le soin des animaux, c'est beaucoup mon mari quand même, il faut le dire, hein. Plus que moi, même si j'essaye d'y aller quand même dès que je suis là. Ce soir actuellement, du coup, il est tout seul. Voilà.
D'accord.
Mais
il écoute la
traite
radio,
est faite.
Et
je sais pas.
On lui fait coucou.
C'était une évidence de continuer, enfin, d'être éleveuse ?
Ouais, c'était une évidence, ouais. L'amour des animaux, la passion de la terre, et puis être agriculteur, c'est un peu dans nos racines, quoi. On a toujours vécu là, et il y a quand même la passion du métier en premier, même si c'est difficile, que la conjoncture est difficile et qu'on a des contraintes administratives, mais il y a toujours la passion du métier.
Mmh. Aucun regret.
Non.
Vous n'avez pas emmené un petit peu tout ce qui traînait dans la cour, là, sur les ronds-points, ces jours-ci ?
Non.
Non, je pose ma question autrement. Est-ce que vous êtes allé manifester un petit
non,
peu ?
Non, on n'est pas allé manifester.
Non. Pourquoi ils manifestent en ce moment, les agriculteurs, Sophie ?
Il y a plein de raisons. Non, mais il y a une multitude de raisons. Là, tu fais une petite transition par rapport à ma chronique. C'est parfait, merci Rémi. Non, mais c'est vrai, effectivement. Il y a eu beaucoup de manifestations récemment agricoles. Alors, il y a eu début novembre, il y a eu quelques jours dans le Tarn et Garonne. Comme tu disais au début d'émission, ils ont pu faire le nettoyage des exploitations agricoles. Bah, comme toujours, en fait, ils essayent de faire entendre leur voix parce qu'il y a leur coût de production qui augmente, l'énergie dont Nadine parlait tout à l'heure, et bah, c'est pas forcément couplé à l'augmentation des prix de vente. Donc c'est un peu ce décalage qui fait râler forcément. Donc ouais, c'est un point que je voulais aborder aujourd'hui parce que c'est pas toujours évident dans le milieu agricole. Mais je voulais aussi vous parler d'une autre action, parce que mis à part les actions escargots sur les rocades, ou encore les pneus en face des préfectures, il y a aussi une autre action qui a été réalisée au mois de novembre, le mois dernier. Certains agriculteurs ont essayé de se faire entendre avec une action qui est plutôt originale. Peut-être que vous avez entendu parler de l'épidémie des panneaux d'entrée de ville ou de sortie de ville qui ont été inversés. Voilà, à l'envers.
Oui,
vous en avez entendu parler.
J'en ai vu.
Ah, j'en ai pas vu, par contre.
Ah si, moi j'en ai vu dans le Lot.
Ah oui, moi j'en vois plein, je parcours beaucoup les routes à livraison et si j'en vois plein.
Ouais, oui, oui, il y en a pas mal.
Et même, nous, le maire de notre village a décidé de le laisser retourner en solidarité.
En solidarité, très bonne idée. Mais en fait, voilà, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, le mois dernier, il y a des panneaux qui ont été retournés pour dénoncer en fait toutes les incohérences dans le secteur agricole qui sont demandées aux agriculteurs. Donc effectivement, ça a débuté dans le Tarn et en Lozère, si je ne me trompe pas, puis en fait, ça s'est développé, ça s'est répandu dans la France entière. Et en fait, ils dénoncent le fait que finalement, on marche sur la tête. D'où l'idée de retourner les panneaux d'entrée de ville. Donc bon, il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien de bien méchant. Et effectivement, en fait, ce qu'ils dénoncent, c'est dans ces incohérences, c'est qu'on leur demande de mieux produire, mais forcément de ne pas faire très cher. Alors, il y a eu toute la thématique récemment par rapport au glyphosate et au renouvellement européen. Donc, pas de glyphosate, mais on ne leur donne pas forcément de solution extrêmement efficace pour compenser. Il y a des normes qui sont contraignantes, mais en parallèle, il y a le gouvernement qui négocie des marchés de libre-échange avec d'autres pays. Donc bon, avec du coup des normes qui sont différentes dans d'autres régions du monde. Donc cette incohérence, bah forcément, le secteur se sent délaissé, souvent décrié, critiqué. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et notamment, je voulais en parler pour présenter un événement qui aura lieu le week-end prochain à Toulouse, le Salon Agricole d'Occitanie, donc le salon qu'on connaît sous le mot Régal. Donc c'est une belle occasion en tout cas d'aller soutenir les agriculteurs et l'agriculture locale. Donc ce salon, bon, je pense que vous le connaissez tous, c'est déjà la 19e édition cette année, il aura lieu au parc d'exposition Mythe de Toulouse. Il est gratuit en plus. Donc c'est une bonne occasion d'aller passer des belles journées sur place. Donc ce sera le 15 et le 17 décembre prochain, donc le week-end prochain, avec deux nocturnes jusqu'à 22h. Donc c'est l'occasion d'aller déguster des bons petits plats quasiment jusqu'au bout de la nuit. Donc on peut retrouver une ferme pédagogique, il y aura des producteurs avec plus de 200 exposants, des dégustations et des ateliers, y compris pour les enfants. Donc voilà, je voulais en parler sur ce point-là avec vous, et puis en même temps parler de cet événement, surtout que c'est une belle occasion de soutenir l'agriculture locale, tout en faisant ses emplettes de Noël, bien évidemment, au-delà des bûches.
Vous faites de temps en temps des foires comme ça
Sur Toulouse, non. Non, parce que déjà, je suis au domaine de Montel, c'est le 17, donc
je ne peux pas être au four.
Il y a deux événements, voilà.
Et non, mais on me l'a eu proposé, mais effectivement, ça tombe à une date où j'étais déjà ailleurs et...
Vous aviez une proposition en tout cas.
Oui,
c'est une belle visibilité en tout cas.
On a eu proposé des salons à Montpellier même, vu que je suis sud de France, donc voilà.
C'est quoi, je suis sud de France? Ça veut dire quoi ça? Je suis sud de France, moi monsieur. Moi monsieur, je suis sud de France.
Alors j'ai envoyé des produits à déguster à la marque Sud de France et qui ont apprécié, qui ont décidé d'intégrer mes produits qui représentent la marque Sud de France.
D'accord. Et ça, ça valorise, ça apporte
oui,
quoi
ça
vous avez explosé les chiffres.
Non. Non, j'ai été faire des dégustations sud de France à Toulouse, au Casino Barrière. On rencontre quelques personnalités qui adhèrent à Sud de France. Et c'est des soirées sympas.
Une façon de se faire connaître.
Voilà, c'est une façon de se faire connaître.
Ça ne vous permet pas d'être distribué plus largement?
Non, pas spécialement, parce qu'on veut rester petit aussi, donc on ne va pas vers la grande distribution. Nous, on vise vraiment le magasin producteur, les particuliers.
La vente directe.
La vente directe. Et en été, maintenant, on fait beaucoup de pizzeria guinguette sur le Lot. De plus en plus.
Mais c'est aussi un gage de... Pardon, mais c'est un gage de qualité de pouvoir rencontrer directement les producteurs. Hein. Tu parles effectivement de ce grand salon qui est à Toulouse, mais beaucoup plus proche de nous. Enfin, tous les samedis matins, il y a le marché à Montauban, qui est le marché des producteurs, à Saint-Antonin-Nobleval tous les dimanches matins, à Caussade le lundi. Tous ces marchés de plein vent sur lesquels on peut directement vous rencontrer.
Tout à fait.
Et je trouve que ça, c'est vraiment... nous, on a cette chance-là ici, que peut-être n'ont pas les Parisiens.
C'est sûr. Après, moi, je ne fais pas de marché. Ouais. Je ne fais que des marchés gourmands en été. Le seul marché que je fais, c'est à Mirabel, le village voisin.
Le vendredi soir.
Le vendredi soir, tout à fait. Je suis même... Je fais partie intégrante de l'association.
On m'a parlé de ce marché. Je n'y ai jamais été encore.
Il faut venir, alors.
Mais c'est parce que c'est tout le temps, c'est le vendredi soir.
C'est le vendredi soir en été du mois de juin au mois de septembre, de 17h à 20h30, à 21h.
D'accord.
Voilà. Et donc, on se retrouve à plusieurs producteurs et maintenant, on organise 3 marchés gourmands tous les derniers vendredis de juin, juillet, août.
D'accord.
Et maintenant, on refait même le 15 août à Mirabel, qui était une fête très populaire à l'époque. Donc, on se relance. Voilà. Okay. Mais c'est le seul marché que je fais. Après, je fais beaucoup, beaucoup de marchés gourmands locaux. Mmh.
Est-ce que c'est plus logique que les marchés
Ben disons que sur les marchés, les gens ont des appréhensions à sortir la glace du congélateur pour la mettre dans leur voiture et la prendre chez eux. Donc voilà, ils n'ont souvent pas prévu la glacière.
Et du coup, tu parlais du sud de France, mais en fait, il me semble que sur les bouteilles, il y a aussi écrit les bouteilles de Limoux, il y a aussi sud de France derrière. Oui. Je l'ai vu juste tout à l'heure, il me semble, sur certaines.
Oui, celle-là en tout cas, oui.
Oui, oui, là aussi, les 4 terroirs océaniques Limoux, élevé en fût de chêne. Il va falloir qu'on la goûte, celle-ci. On écoute un petit peu de Monsieur Lombre. Lombre, c'est un jeune homme qui est de l'Aveyron, me semble-t-il, ou du Tarn.
Non,
du
non,
Tarn.
Non, il est ruthénois.
Ah, il est aveyronnais. Et c'est un petit jeune qui monte. Et là, qui est en concert.
À la chapelle Saint-Jean.
Ah, pardon, je croyais que c'était au club.
Samedi soir.
Ok.
Loin de tout, loin de vous, contre nous après tout. Seulement vivre un bon coup, voir de l'amour partout, est-ce que c'est trop demandé? On se sent dépassé, démodé, désemparé, déprimé. À trop courir contre vents et marées, humain dans obsolescence programmée. Seul sur la piste, je veux juste qu'on m'observe. Tes projecteurs trahissent, les résident dans mon crâne. Me rappeler de ces années d'ignorance, de sagesse, et celer dans le silence et l'orage. Alors on fait la fête, on oublie toutes les réponses de l'oracle. Demain sera un autre jour, puis le reste on s'en fout. Il nous reste de l'espoir, alors advienne que pourra. C'est le bordel dans ma tête, l'alcool fait des ravages. Seul dans une mer immense, c'est dur de rester calme. Je te promets que demain, on reprendra l'avantage. En attendant, je noie le mal, bordel dans ma tête. Des pleurs, la liberté s'échaîne, le vertige face au vide, la mort dans une vie où on suit des faux pour qui crament, des femmes qu'on exploite, la haine dans toutes les rues, une terre qu'on menace, des problèmes de crédit, des dettes à régler, des payes non reçues, des règlements de compte, et si ça continue, je risque d'exploser, de ne plus supporter tout ce qu'il y a de bon. Faut pas s'étonner que le soir on s'éclate la tête quand on voit nos vies défiler devant nous, qu'on plus rien n'a de sens, ni même de saveur, tout le monde est réduit, sonne l'heure de la trêve. Égarés sont mes problèmes, libérer mon âme. Je veux traverser les barrières, m'enfuir de leur cage, ériger ma présence, faire brûler la flamme, souffler sur les poussières et puis me noyer dans des larmes. Le soir, quand tu me vois, toi, c'est plus vraiment moi qui parle, qui danse, qui y croit. Ce soir, que tu vois là, c'est juste ton miroir. Pars pas,
L'Ombre en concert à Rodez samedi soir à la Chapelle Sixtine.
Voilà, c'est ça. Pourquoi vous ne saviez pas qu'il y avait la Chapelle Sixtine à Rodez? À la Chapelle Saint-Jean.
C'est pour voir si les gens écoutent et suivent correctement.
Qu'est-ce qu'on déguste encore quelques minutes en compagnie de Nadine Oustry du GAEC de Cantepoule avec, ce coup-ci, un peu de glace au chocolat. Chocolat vanille, c'est ça?
Non,
trois chocolats, non, c'était pas ça?
Non, celle-là, c'est pas trois chocolats.
Banane.
Banane, tout à fait.
C'est rigolo.
J'aime bien vous laisser deviner comme ça, au moins. On voit si le parfum colle.
Et c'est parfum banane ou c'est de la vraie banane?
Non, c'est de la vraie banane.
Ah, ouais.
Oh, quel travail!
Oui, enfin la banane c'est vite mixé quand même.
Oui. Mais on le sent, hein. Ouais. Beaucoup plus fort le goût du tout.
Oui.
D'accord.
Bien, et on peut répéter où nous trouvons ces glaces extraordinaires?
Alors nous pouvons trouver ces glaces dans les magasins producteurs, notamment le domaine de la Prade, les Saveurs du Carré tout dans les quatre magasins.
Quatre magasins, c'est-à-dire Montauban, Saint-Nopharry.
Oui, tout à fait, Saint-Nopharry, Orgueil et Régnès. Et Orgueil notamment a été déplacé pour travaux, mais il se trouve juste à côté. Et, ça va très bien fonctionner le temps des travaux. Voilà, après, au magasin à Saint-Étienne-de-Tulmont, le Bon, le Brut et le Gourmand, qui a ouvert il y a un an. Après, dans tous ces magasins-là, vous pouvez aller commander et je livrerai la semaine avant Noël. Vous pourrez récupérer vos bûches. Et sur le Drive Fermier 82.
Ça marche, le Drive Fermier 82?
Ça marche, le Drive Fermier 82, ouais.
Comment ça s'organise, ça? Parce que si ce soir, en rentrant, je décide, tiens, de commander une bûche sur le Drive Fermier, paf, je commande.
Ben, vous allez sur le site du Drive Fermier.
C'est pas comme Amazon, je le reçois pas demain matin.
Et non, vous la recevrez vendredi prochain dans un des points relais, retrait du Drive. Il y en a de plus en plus.
Ouais.
Ouais, il y en a eu des nouveaux, Castel Sarrazin notamment.
Non, parce que un outil comme ça, il faut que ce soit animé, il faut que ça fonctionne.
Oui, il y a des très beaux animateurs. Ouais.
Donc ça marche.
Ouais, ça marche.
En partenariat avec la Chambre d'agriculture.
Oui, tout à fait, c'est un partenariat avec la Chambre d'agriculture.
Et alors, mis à part les magasins de producteurs et du coup le Drave, il y a aussi, on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux peut-être?
Oui, tout à fait, j'ai une page Facebook et une page Instagram que j'essaye d'animer quand j'ai le temps.
Entre deux traites.
Voilà, vous faites influenceuse.
Oui, j'essaye, je mets quelques photos, voilà.
Pas les recettes?
Non, toujours pas les recettes.
Toujours pas, il essaie de gratter Rémi, hein,
ouais, mais il n'aura pas. Ça reste secret.
Oui, et j'ai lu récemment, cet après-midi, que le secret a quelque chose de sacré. Donc, elle ne dira rien, Rémi. Voilà.
Quel est le futur, quels sont les projets du GAEC de Cantepoule?
Pour le moment, essayer de perdurer. Après, peut-être réduire encore un petit peu le nombre de vaches pour que mon mari ait le temps de venir avec moi sur les marchés gourmands et faire autre chose que voir les vaches. Et après, toujours produire du lait de qualité avec l'alimentation fermière à 100%. Ça fait déjà plus de 15 ans là, qu'on ne donne plus de soja et tout ce qui est aliment extérieur.
D'accord, ça veut dire que vous produisez tout ce que les bêtes mangent?
Tout à fait, les céréales, orge, blé, maïs, foin de luzerne. On utilise la paille pour leur faire une litière et qu'elles soient couchées confortablement.
Vous achetez rien à l'extérieur?
Non, on n'achète rien à l'extérieur.
D'accord.
Pas de vacances alors? C'est quand
si, on prend quand même 4 jours de vacances par an.
Et qui s'occupe alors?
4 jours, c'est trop
et
la fête.
Et le service en remplacement géré par la Chambre d'agriculture aussi. Voilà.
Oui, 4 jours, ça fait peu. Fonctionne bien?
C'est quoi le
ça
service remplacement
bien.
C'est quoi
mais
le service?
C'est une personne qui vient réaliser la traite et le soin des animaux à notre place quand on n'est pas là.
4 jours, quoi.
Oui, parce qu'on n'a pas forcément le temps
vraiment,
de partir.
Vraiment, ça n'avait aucun sens du commun, quoi. 4 jours, c'est énorme, n'importe quoi.
Exactement. Des fois, on fait ça 2 fois par an, quand même. Faut le dire.
Est-ce que vous arrivez à décrocher vraiment pendant ces 4 jours?
Ouais.
Et qu'est-ce que vous faites pendant 4 jours? Vous allez où? Oh, à Castel-Sarrazin, j'étais trop bien.
Castel-Sarrazin
plage. Le
pas
port Jacques-Yves Cousteau.
On visite le Pays Basque ou les côtes méditerranéennes. Ça dépend des années.
T'as 4 jours, c'est quand même
Ouais, galop, mais quoi. C'est compliqué avec les animaux de les laisser plus quand même.
Bon, c'est parce que aussi vous êtes bien à la maison. du coup ?
Non, on partirait bien plus souvent quand même. Mais bon, si on n'a plus de vaches, on va être embêté pour faire de la glace. Donc, voilà. Ou alors, on ne fera plus que des sorbets.
Ben oui. Vous pourriez avoir moitié moins de vaches, par exemple.
Oui, mais de toute façon, il faut être là tous les jours quand même. Qu'il y en ait 10, 20 ou une même. Il faut être là tous les jours quand même. Donc, non, il faut en garder un minimum quand même. Mais... après aussi, c'est une habitude de ne pas partir en vacances pendant des semaines.
Vous avez dit tout à l'heure que c'est bien normal pour faire ces glaces. Vous vous êtes formé, vous avez été donc plusieurs fois en formation. Est-ce que vous avez d'autres envies de formation, d'apprentissage?
Ouais, là j'ai d'autres envies de formation pour justement développer les desserts glacés et faire des inserts croustillants ou autres.
Ouais.
Toujours innover, il faut bien. Pour se différencier.
Et du coup, vous orientez vers qui quand vous cherchez ces formations ?
Là, en fait, honnêtement, j'ai regardé sur Internet avec des centres de formation, pas forcément à côté, mais sur le sud de la France ou le nord, par contre, où c'est beaucoup plus développé, les centres de formation. Mais c'est formation privée après.
Ouais, mais du coup, ça sort un peu du dispositif peut-être agri.
Oui, je pense.
On est plus dans de la gastro, mais du coup, vous êtes accompagné ou pas sur ce type de formation ?
Financièrement, vous voulez dire ? Non, je pense pas, non. Du coup, je pense qu'il faut prévoir de la prendre en charge.
Vous n'avez pas le CPF ?
Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas le compte CPF.
Non, je pense pas. Hein. En tant qu'exploitant agricole, chef d'entreprise.
Je sais pas, il suffit de cotiser, hein. Bon, parce qu'après, les agriculteurs, ils disent toujours « Oui, j'ai pas de retraite, j'ai pas de retraite !» Ouais, mais t'as qu'à cotiser.
Ça, pour cotiser, on cotise. Le raccourci.
Il va y avoir une manifestation devant la porte.
Ouais, il va y avoir un tas de
bleus. Non, mais je blague, mais c'est ce qu'on dit toujours.
Et oui, c'est ce qu'on dit.
C'est le pensif, quoi.
Non, je sais, il faut que je me renseigne. Peut-être qu'on a des droits.
Mais vous êtes en train de vous prendre au jeu un peu de... Voilà, de
l'artisanat,
de l'artisanat, de la pâtisserie. De... Ouais.
Oui, oui, ce qui est un savoir-faire qu'on n'avait pas du tout, puisqu'on a juste une formation agricole avec mon mari. Donc, ça sort du contexte qu'on avait prévu il y a 20 ans. Totalement. Bon. Le relationnel client aussi et tout, c'est vraiment très différent, quoi.
Bon, j'ai l'impression que vous y épanouissez quand même. Hein.
Bah oui.
Hein,
tout à fait.
Vous avez découvert.
Bah oui, ça sort quand même, parce qu'agriculteur, on est quand même beaucoup chez nous, il faut le dire. Et si on ne fait que travailler dans l'exploitation, on est coupé du monde un peu. Hein. Alors que là, quand même, on bouge beaucoup, on a du relationnel et c'est agréable.
C'est vous qui êtes toujours en extérieur ou votre mari de temps en temps ?
Non, c'est plutôt moi.
Ouais.
Ouais.
Même quand vous allez je sais pas, dans la salle de spectacle, là, au casino de Barrières.
Ouais, c'est moi, ouais.
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 D'accord.
C'est souvent moi, ouais. Après, les gens me connaissent et m'identifient aux produits aussi beaucoup maintenant. Quand je sors sur les marchés gourmands, je suis identifiée à mon produit.
Bon, la glace, elle s'appelle la glace du Gaec de Cantepoule.
Tout à fait.
Elle n'a pas un petit nom. Vous n'avez pas fait comme à Limoux,
non, pas du tout.
À Guilla ou. Non.
On a cherché, on n'a pas trouvé. Comme ça fonctionne comme ça, on le laisse comme ça.
Il n'y a pas d'inspiration encore.
Ouais, voilà.
Les glaces de Nadine ?
Non.
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 Il n'y a pas que Nadine.
Il n'y a pas que moi en plus.
Et Sébastien.
Ouais, mais non, ça ne nous a pas plu.
Bon, donc les glaces du Gaec de Cantepoule à Saint-Vincent-d'Hautejac dans le Tarn-et-Garonne.
Tout à fait.
Mais ça marche bien aussi, puis ça fait terroir en quelque sorte. Hein. Non, mais puis elles sont délicieuses. Hein.
Elles
validé.
Sont vraiment... Ah oui, elles sont carrément. Savoureuses, elles sont délicieuses.
On pourra dire à Pierre Cantegrel, à Philippe Audard.
Oui, tout ce qu'ils ont fait.
Ils ont tout raté. Nattard, qu'ils ont tout raté. Quoi.
Non, mais pour une fois que c'est du sucré aussi, ce serait souvent, ça peut être du salé. Donc,
C'est vrai qu'on est plus souvent dans le salé.
Ouais. Oui. Moi, je préfère le sucré, donc je suis contente.
bon, en tout cas, merci de nous avoir régalé.
Ben, merci à vous de m'avoir invité.
On se fait un petit tour de table de, je sais pas, des plans du week-end, des plans des restos, des choses comme ça. Ouais, t'as une idée là déjà?
Je vais trouver en instantané là. Si, à part le Salon Régal la semaine prochaine pour découvrir l'agriculture locale, enfin l'agriculture régionale. Qu'est-ce que j'ai d'autre ce week-end? Les plans perso. moi, je pars en congrès régional demain à Toulouse pour la Jeune Chambre économique. Mais ça, c'est par rapport à l'association. Qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? Je réfléchis.
Un petit resto, là.
Un petit resto. Ah si, j'ai un resto à conseiller que j'ai fait la semaine dernière. Celui qui est au niveau de l'aérodrome de Montauban, Il Fiorentino, si je ne me trompe pas, un restaurant italien qui est délicieux, voilà, et que je conseille.
Oui, j'y suis allé l'autre jour avec Hervé, effectivement.
Tu connais ?
Ouais, oui, oui, oui.
Donc moi,
oui,
j'ai bien aimé.
Ça se fait. Il y a des pizzas, les mecs sont habillés en italien. Ils parlent italien, donc
le tiramisu est délicieux. Donc moi, qui adore le sucré, vous avez bien compris.
Quel restaurant ne connais-tu pas, Rémi ?
Alors tiens, il y a un truc qu'il faut aller encourager ce jeune homme qui a l'épicerie Léonard à Montauban, place de la cathédrale, tu vois ?
Oui.
Et voilà, et donc il a une jolie petite cave. Il a un côté épicerie, il faut quand même avoir un peu
de
la maille pour acheter les trucs du côté d'épicerie. Mais bon, il y a des gens qui ont de l'argent, hein, donc pourquoi pas. Mais il a une cave abordable à partir de tous les prix et il a vraiment des trucs très sympas. Ouais.
Bon, voilà. J'irai voir.
Oui, chez Léonard, très sympa. Où est-ce qu'il faut aller ?
Je sais pas, moi je vais dimanche au marché de Noël à Montpezat de Quercy, ça c'est sûr.
Ah ben voilà.
Et voilà.
Dans le 17
Oui, mais... sinon le 17 au domaine de Montels, mais là
demain,
c'est sûr.
Montpezat de Quercy.
Non, dimanche, Montpezat de Quercy.
Il y a un marché spécial ?
Marché de Noël, très sympa. Enfin, ça fait 2 ans que j'y suis pas allée, donc, mais très sympa. Avec restauration sur place, il me semble.
Ah ah.
Bon. Et ben voilà, on arrive au bout de ce Qu'est-ce qu'on déguste. Merci à Christophe Magui, directeur commercial de Sieur d'Arc, les caves coopératives de Limoudette, de nous avoir régalé avec les bulles Aguila, quelque chose de très abordable pour mettre sur les tables en fin d'année, et qui accompagne admirablement les glaces du Gaec de Cantepoule que nous a apporté